Cette émission vous est proposée avec la chatoyante participation de Hervé Bouillard, Valentin Dupont, Marc D, Nicolas Marques, Billy 2072, Brogne, Space Rata, Davav 75 et Sylvain Brochant. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu internet, tech, gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de Apple, de Microsoft et un petit peu de la loi numérique et pour savoir un petit peu où on en est dans tout ça. Et pour m'accompagner, pour naviguer les flots chaotiques de la tech, de l'actu tech, j'ai le chatoyant Cédric Bonnet. Comment ça va Cédric?
Écoute, ça va. Je pensais que tu allais dire l'énervé parce que j'avoue que dans mes dernières émissions, je m'énerve tout le temps. Donc, je voulais t'aller dire l'énervé Cédric Bonnet, mais
non, voilà. non, mais tu es chatoyant de, okay. de couleurs et de
je suis shiny comme les Pokémon.
Bon, je me demandais avant de commencer l'émission quel adjectif je pouvais utiliser pour décrire les patriotes qui soutiennent l'émission que je remercie cette fois-ci dans cet épisode. Et Cédric m'a suggéré chatoyant. Donc d'habitude ouais. Je fais en e ou en euse. et là je me dis que peut-être pour la nouvelle année on va commencer en an.
En plus, voilà.
Ouais, il y en a plus. Donc on verra ce qui se passe. Bon bah écoute, merci beaucoup d'être avec nous, Cédric,
merci à toi.
De prendre quelques minutes loin de ton labeur intensif sur Geek Inc qui est quotidien.
C'est ça.
Pour venir commenter la tech avec moi. Donc comme je le disais, on va faire un petit point sur des infos et des rumeurs de chez Microsoft, de chez Apple et sur la loi numérique. On n'a pas d'énormes grosses news en ce début d'année, c'est toujours un petit peu calme. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs parce que, comme vous le savez, moi je suis dans les cartons et j'ai
ça t'arrange bien. Choses,
donc, bah oui. Oui, un petit peu. Donc, dans quelques jours, c'est le grand voyage, le grand départ qui s'opère. Et là, il y a les cartons un petit peu partout qui s'accumulent. Ils me regardent, ils m'agressent en permanence. Donc, on va faire le point sur toutes ces choses-là. Et quand je dis on va faire le point, on va passer en revue les points. C'est point avec T, hein, pas avec G.
Mm-hmm. Hein,
c'est
tout à voilà, fait.
Pas de violence dans la tech.
C'est ça.
Donc, si on parle de Microsoft ou d'Apple, merci de garder votre énervement. Pour,
oui.
Je sais pas, où tu le présentais, ton énervement sur Twitter, c'est ça?
Dans les émissions. Mais je me suis beaucoup énervé sur la publicité en ligne, la chronologie des médias et tout ça, quoi.
Je t'avoue que, à ma grande honte, ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps de regarder Geek Inc. Donc, je vais avoir un bon stock à faire.
Regarde le dernier beat. Vraiment, le tout dernier, là, le 16 ou 17. Le 16, je crois que c'est. C'est
l'énervement est là.
Ouais, l'énervement est bien là, ouais.
Ok, très bien, très bien. Eh ben, écoute, on se fera ça. Mais on va commencer avec un truc qui moi m'énerve un petit peu, mais on va quand même essayer de rester calme et objectif, à savoir le Microsoft HoloLens, puisqu'il y a eu en fait une présentation qui a leaké sur l'internet du cybernaute, une présentation qui a été faite il y a quelques semaines de ça à Tel Aviv par un employé de Microsoft qui s'appelle Bruce Harris, et la présentation vidéo a été disponible pendant quelques heures sur internet, elle a été retirée assez vite. Mais dans cette présentation, on apprend certaines des caractéristiques du HoloLens. Alors, on a en fait une image un petit peu plus précise de ce que sera le HoloLens en tant que première version du produit commercial une fois qu'il sera disponible. Il sera entièrement sans fil, donc aucun fil attaché. Hein, il y aura une batterie et... Alors, en fait, l'ordinateur a planté, tu vois. J'ai eu un gros écran bleu de la mort. Comme tu le disais par SMS, quand je t'ai expliqué que mon ordinateur a planté, c'est Microsoft.
C'est ça. Ils écoutent.
Ils nous écoutent, c'est une bonne nouvelle.
Attends, mais on est sur Skype. Mais tout s'explique.
Ah, Bon, eh bien écoute, la pression du capitalisme corporatiste ne nous arrêtera pas. Nous allons tout de même continuer notre discussion de cette présentation pirate qui a été supprimée par des demandes certainement de Microsoft. Et nous allons vous dire, tout vous dire sur cette HoloLens. Surtout que quand j'allais terminer la partie sur les batteries qui avaient donc une autonomie d'environ 5 heures, un petit peu plus, qui passait, qui était diminuée de moitié s'il y avait une grosse charge de calcul sur l'appareil, donc on était à 2 heures et demie à peu près, eh bien, l'autre élément qui nous était parvenu, c'était que il y avait en fait un champ de vision qu'il était possible d'avoir avec de la réalité augmentée, qui était l'équivalent d'un moniteur de 15 pouces qui était à 2 pieds, donc à peu près 60 centimètres, de votre visage. Donc, c'est quand même, généralement, 60 centimètres, c'est un peu plus loin que le moniteur que vous utilisez tous les jours, et 15 pouces, c'est vraiment pas grand pour un écran. Hein. Généralement, la plupart des portables, des ordinateurs portables moyenne taille, c'est entre 13 et 15 pouces. Donc vous voyez à peu près ça, vous le mettez à 60 centimètres de votre visage, c'est-à-dire 2 fois plus loin que votre moniteur habituellement, et vous avez la partie de votre champ de vision où le HoloLens pourra afficher des augmentations de réalité en 3D. Franchement, alors c'est pour des raisons compréhensibles, hein, c'est une question technologique, ça coûterait beaucoup trop cher de faire plus et ça consommerait beaucoup plus de batterie. Mais, enfin, moi, je vais dire, qu'est-ce que t'en penses toi Cédric, avant que moi j'en parle.
En l'état, c'est pas intéressant. Voilà, c'est pour résumer, c'est et je parle pas de la batterie de ça parce que à la limite, je peux comprendre que t'en sers pour une activité ponctuelle, tu vois, que tu l'utilises pas toute la journée, mais le champ de vision quoi, enfin.
Ouais, c'est surtout ça.
Il y a un vrai problème là. Enfin, à la limite au lieu d'avoir un truc immense comme ça, on prend des Google Glass, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, ça fait pas la même chose, mais en termes de champ de vision, on est quand même pas très loin de du timbre poste, quoi. Donc, je sais pas, je suis
sceptique.
Très déçu. C'est-à-dire que, techniquement, je trouve ça très impressionnant, et ça reste hyper impressionnant. Mais pour que les gens l'adoptent, il faut que le wow effect soit pas seulement dans les vidéos, mais qui soit dans le produit, ça c'est clair. Et le fait que le champ de vision soit autant réduit, pour moi, ça nuit énormément au wow effect. Hein.
Bah, c'est surtout que dans les vidéos de présentation, effectivement, et dans leur matériel, ils montraient un effet qui était que les hologrammes, enfin les rendus 3D, les objets en 3D qu'ils pouvaient afficher, étaient dans l'intégralité du champ de vision. Puis un petit peu plus tard, ils ont montré un champ de vision un petit peu réduit. Mais on est en plein dans moi, ce qui me frustre beaucoup dans ce type de présentation dont je qualifie de futurisme. C'est un petit peu, c'est pas tout à fait de la science-fiction, mais c'est tellement théorique que autant, enfin, ça nous vend un truc qui n'existe pas vraiment et dont on sait même pas si c'est possible.
Alors je suis d'accord avec toi, mais là on n'est pas sur du théorique, c'est simplement que sur les caméras, quand tu mets on va dire la zone hologramme, si tu la colles à l'objectif, ben forcément tu as un champ de vision total.
Oui, non, évidemment, mais ce que ça laissait entendre dans les vidéos de présentation, et pas que dans la première, c'était que le champ de vision était beaucoup beaucoup plus large que ces 15 pouces à 60 cm.
Quand tu voyais la taille des lunettes, comme elles englobent l'œil, c'est ça. Te dire bon ben.
Et c'est un peu, tu évoquais les Google Glass qui étaient mon autre gros coup de gueule. Tu disais qu'on était énervé. Moi, ça m'arrive de temps en temps de m'énerver. Parce que ça montrait des trucs qui étaient une sorte d'imagination fantasmée. Et autant parfois on peut avoir une imagination fantasmée qui me plaît parce que on dit bah on aimerait bien que ça soit comme ça, mais c'est très différent de laisser entendre, sans le dire clairement, mais de laisser entendre que le produit qu'on a et qu'on vous présente aujourd'hui, eh ben c'est ça. Et là effectivement, non seulement le produit, bon il a été présenté il y a qu'un an, donc c'est vrai qu'on est encore contrairement au Google Glass qui doit avoir quoi, 2 ans et demi,
ouais,
peut-être
oui,
plus. On est encore relativement proche de la sortie, enfin de la présentation, et peut-être qu'à terme ça va être amélioré, ça sera encore meilleur. Mais là, ils parlent de ce qui sera disponible dans peut-être un an. Donc c'est même pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc je sais pas. Ouais. Moi je suis
c'est pour moi c'est décevant sur enfin bon après on a le prix des développeurs kit hein, comme d'hab on n'a pas le prix définitif mais pareil pour le prix je sais pas. Ça va peut-être se cantonner à des utilisations professionnelles, du coup, mais montrer du Minecraft là-dessus, hein. Et in fine, ça, personne l'utilisera comme ça, parce que personne n'achètera le produit, et parce que très clairement, 15 pouces à 60 centimètres, c'est ridicule.
Ouais.
Voilà. Après, techniquement, ça montre juste
c'est intéressant
un truc,
qu'ils fassent cette recherche, et c'est important même qu'il y en ait.
Et ça montre que, tu vois, quand tu auras une V2 ou une V3, quand les processeurs embarqués permettront de faire justement ces calculs sans que ça ruine la batterie en 10 minutes et que ça te brûle le cerveau. Parce que faut juste voir un truc, je pense que quand ça va chauffer, ça va vraiment chauffer ce truc. Hein.
Ah bah c'est donc, sûr qu'ils doivent le prendre en compte. Mais
je pense que le design de l'appareil est fait pour éviter que tu finisses complètement lobotomisé. Mais le truc, c'est que ça montre une direction. Et la direction, je la trouve, elle est critiquable, mais je la trouve pas complètement déconnante.
Mais moi je suis complètement d'accord. Hein. Il faut pas que les gens pensent que je dis il faut qu'ils fassent rien. C'est juste dans la
forme.
Voilà. Ouais, c'est ça. La manière de communiquer pour moi est malhabile. Mais le domaine de recherche est tout à fait intéressant. Ça, je suis complètement d'accord.
D'un autre côté, si dès le départ ils avaient communiqué sur un écran 15 pouces à 60 centimètres, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de hype.
Mais c'est ça, c'est exactement ça qui m'irrite, tu vois, c'est qu'il y a eu une sorte de mensonge, et bon, c'est pas la première fois qu'un truc marketing fait un mensonge, mais là, c'est vraiment pas tant, ça, c'est avéré, quoi. C'était genre, ça va, vous allez vivre dans les hologrammes, et c'est genre, oh, c'est dingue, et après, c'est un timbre-poste, donc... Bref, tu évoquais Minecraft également, et il y a une news, là pour le cas tout à fait confirmé, qui est le rachat de Minecraft Edu par Microsoft. Et Minecraft Edu, en fait, c'est tout un écosystème, un moyen d'utiliser Minecraft pour l'éducation, simplement utiliser ce jeu, qui est un jeu, une sorte de Lego virtuel, hein, si on simplifie beaucoup, dans l'éducation. Je sais pas si t'as regardé un petit peu à quoi ça correspond, Minecraft Edu, et ce que t'en penses.
Bah écoute, moi je trouve ça plutôt intéressant. Et surtout que ça permet de développer des choses, alors que tu peux évidemment développer dans l'éducation classique et avec des livres, mais je trouve que c'est rendre la chose moderne et je trouve que c'est motivant en fait quand tu vois enfin je suppose hein parce que je l'ai pas testé moi-même mais quand je vois avec mon fils il s'intéresse beaucoup aux planètes aux fusées tout ça j'ai trouvé des super apps d'ailleurs dont je voulais parler dans Upload sur ça sur les volcans sur tous ces trucs là et dès que ça devient un peu ludique ça rentre mais c'est juste incroyable en fait et se dire que voilà avec Minecraft Edu ils vont apprendre en s'amusant. Ben pour moi, apprendre en s'amusant, c'est pas incompatible, tu vois.
À vrai dire, même si on va un petit peu plus loin dans la fonction évolutionnaire du jeu, le jeu, c'est l'entraînement pour le. Enfin, quand on voit les animaux qui se chamaillent, c'est pour apprendre à se battre, quoi. Donc, tout à fait. Le jeu a une fonction éducative évidente. J'ai juste un petit peu de mal à comprendre en quoi Minecraft peut aider à enseigner, enfin qu'est-ce que ça enseigne en fait. Dans les vidéos de présentation, ils parlent beaucoup d'interaction sociale, tout simplement de socialisation et ce genre de choses. Ils parlent moins, et à vrai dire, ils n'en parlent pas du potentiel vraiment, genre est-ce que ça t'apprend les maths, est-ce que ça t'apprend la physique.
En fait, tu peux, avec Minecraft, tu peux même faire de la programmation, tu peux faire plein de choses, enfin on va dire qu'il y a de la logique dans ce jeu et c'est là où c'est intéressant, tu vois, pour amener l'électricité, pour faire certaines choses. La socialisation, je pense qu'il part plus du principe que, en gros, il faut s'entraider pour arriver à faire quelque chose. Et c'est plus ça. C'est comment je fais un compromis pour construire un truc avec mon copain qui, lui, a pas forcément la même vision du truc. Ça permet ça, en fait. Alors, c'est réducteur peut-être, mais tu vois quand tu regardais je sais pas si tu en as fait quand tu étais jeune, mais des travaux en groupe, il se créait quelque chose en fait entre les élèves quand c'est des petits groupes de 5 avec où on travaillait sur le même sujet,
c'est
chacun amenait son truc. Mais en fait c'est un peu ça, sauf que là on les met face à des situations qu'on ne peut pas reproduire forcément dans le réel.
Ouais, donc c'est pas qu'ils vont apprendre, qu'ils vont faire leur cours de physique chimie ou d'histoire géo.
En fait, on pourrait y avoir des expériences même de physique ou de chimie qui soient simulées dans un Minecraft. C'est pas un problème ça.
Ouais.
Mais Après, est-ce que il y a peut-être des expériences justement qui ne sont pas reproductibles facilement dans un labo, surtout dans des écoles primaires ou des collèges qui sont pas équipés pour, mais qui peuvent être complètement illustrées là-dedans. Et en plus, elles seraient peut-être retenues plus facilement car elles sont dans une dimension de ludique et de jeu. Ce qui fait qu'on retiendrait peut-être plus facilement certaines choses. Mais tu vois, ouais. On pourrait facilement transposer l'équilibre des équations chimiques et ce genre de trucs dans Minecraft. En fait, c'est que de la logique, et faire ça en groupe avec un résultat qui pourrait être ludique justement et une espèce de petite compétition, c'est assez génial, quoi.
C'est sûr.
Après, c'est toujours pareil. Je sais, pour moi, il n'y a pas une méthode d'enseignement, mais il y a quasiment autant de méthodes qu'on aurait d'enfants, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ils sont tous différents dans leur approche du truc. Et ça, c'est une approche qui, pour le moment, est pas du tout exploitée et mise en avant par l'éducation nationale et autres. Et peut-être que ça fait partie, justement, d'une façon de voir l'éducation différemment, de façon plus moderne et peut-être moins à base de cours magistraux, quoi, tu vois.
Ouais, c'est vrai qu'on a, surtout en France, c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu dans le cours magistral et dans.
C'est ça.
Mais il y a beaucoup de gens qui viennent
dans l'expérience.
D'autres pays.
Ça, ça permet justement de faire ça.
Qui font
et puis après,
ça.
À la fin d'une session de jeu, tu peux très bien en tirer des conclusions. Pourquoi
tout à fait,
certaines choses
ont marché. Et ouvrir vers quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. Mais en l'occurrence, Minecraft est utilisé déjà pas mal dans l'éducation. Hein. Il y a, selon les chiffres de Minecraft Edu, environ une quarantaine de pays qui l'utilisent, avec 7000 classes qui utiliseraient déjà Minecraft. Bon, là, Microsoft simplifie le système. On ne sait pas si ça va coûter moins cher, parce que ça coûtait déjà quelque chose. Mm-hmm. Et c'est $5, je crois, par élève qui vont utiliser le truc. Bon, c'est un petit budget, mais si c'est effectivement, ça peut apporter quelque chose, ça peut être intéressant. Et enfin, le patriote Mika nous dit dans le Reddit du Rendez-vous Tech
j'en ai parlé.
Et alors justement, tu peux peut-être nous faire la news.
En fait, c'est juste que Microsoft a annoncé que, par exemple, les drivers pour les processeurs Intel Skylake, des Skylake, donc les processeurs actuels Intel, en fait, il y a une petite nouveauté dans ces processeurs, c'est le speed shift. Le speed shift, en fait, qui est une technologie qui permet en gros de raccourcir les temps de latence des changements de fréquence du processeur pour le traitement des tâches, et en gros, il est capable de traiter certaines tâches jusqu'à deux fois plus vite. Et ce speed shift-là, il faut un driver spécifique à l'OS pour le faire fonctionner. Et en fait, il ne serait pas développé, ce driver. Microsoft ne développerait pas ce driver et l'intégrerait pas dans Windows 8, 8.1 et 7. Et évidemment, avant, j'en parle même pas. Pour, entre guillemets, imposer Windows 10 en disant, si vous voulez utiliser votre processeur à ses pleines capacités, passez sous Windows 10.
C'est une raison de plus encore de faire passer les gens, enfin une motivation supplémentaire.
Ah là, c'est une motivation, ouais. Quand t'achètes un ordinateur tout neuf et que tu te dis « Oh non, je vais installer Windows 7 parce que je le préfère », le problème, c'est que t'as acheté ton beau Core i7 Skylake qui t'a coûté une fortune, et malheureusement, il ne sera pas à ses pleines capacités. Donc, après, c'est...
Alors, c'est un petit peu, ça relance encore une fois le débat, et j'aimerais savoir, toi, ce que t'en penses, mais il y a toujours cet équilibre qui est difficile à trouver entre supporter tous les systèmes qui existent et se concentrer sur certains systèmes qu'on peut mettre à jour et qui seront aussi bien conçu et bien fignolé que possible. Moi, j'ai tendance à dire à suivre le modèle du tant qu'à faire, si tu veux avoir un système qui est sûr, surtout qu'ils sont toujours connectés. Aujourd'hui, on a des vrais problèmes sur toutes les machines. C'est compliqué. Enfin, moi, je me dis, autant passer tout le monde sur Windows 10. Oui, ça n'a pas que des avantages, mais autant encourager autant que de personnes que possible à passer sur Windows 10 avec des mises à jour automatiques. En gros, moi, je suis pour les mises à jour automatiques. Voilà.
C'est difficile d'être contre. Et pour moi-même, ça devrait être la chose qui motive les gens à passer à Windows 10, c'est se dire, oh là là, mon OS va plus avoir les mises à jour de sécurité, il faut que je change.
Ouais, Microsoft, mais c'est artificiel.
Le parc installé en plus est tellement grand pour Microsoft que c'est juste impossible d'arrêter demain les mises à jour de sécurité, même pour les anciens OS. Quand je parle ancien, c'est au moins deux générations avant, tu vois. C'est compliqué pour eux, parce que s'ils font ça, c'est, enfin, les réseaux de botnet vont exploser, quoi. Les ouais. PC zombies, tout ce que tu veux, ça va être la fête du slip. Et puis les gens auront leur ordinateur qui seront complètement à genoux, inutilisables, et surtout leurs données personnelles seront compromises.
Mais... Bon, d'accord, mais alors là, je vais prendre l'autre, forcément, je me fais l'avocat du diable comme je le fais souvent. Moi, j'ai acheté un PC avec Windows 8 il y a 3 ans, il marche très très bien, il fonctionne parfaitement bien, je suis à l'aise avec Windows 8. Windows 8, enfin 8.1, c'est pas non plus un truc qui est sorti il y a 10 ans, faut pas déconner. Non. Pourquoi est-ce que Microsoft me force à passer à Windows 10? C'est quand même un petit peu... Mais oui, non, d'accord, mais moi je m'en fous que ça soit ouais, gratuit.
Tout à fait, tout à fait.
D'une part, il y a peut-être des drivers qui vont pas fonctionner sous Windows 10.
Non.
Je suis pas sûr. Et puis, de toute façon, je veux pas, quoi. Moi, j'ai mon Windows 8, je suis content, je veux pas être forcé. Bon, ok, il me force pas, mais il pousse quand même beaucoup. C'est abusé, non?
Bah, tu peux... En fait, je pense que... Tu vois, en ce moment, il y a X-Files qui revient, donc la vérité est ailleurs. Si tu te places du côté de Microsoft, tu pourras avoir la vision angélique qui dit on veut imposer Windows 10 dans les machines, c'est pour la sécurité des gens, et puis c'est vraiment le meilleur OS et c'est génial. Et l'autre, c'est on veut présenter de bons résultats quand on va annoncer le nombre de postes installés en Windows 10, donc il va falloir que les gens y passent et se bougent les fesses, quoi.
Et en plus, Windows 10 aspire encore plus de données personnelles.
Mais ça, ils vont pas le dire, c'est mon marketing, ça.
Et donc, en plus, c'est pas tout à fait avéré.
Je crois que la vérité se situe un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'afficher un succès avec Windows 10, parce que c'est un sacré pari pour eux. C'est le premier, entre guillemets, OS gratuit. C'est enfin la réussite dans l'unification des OS. Enfin, ça c'est discutable, mais la réunification entre l'OS mobile et l'OS PC tant attendu avec des compromis. Mais bon, voilà, ça marche au moins. L'OS est bon. C'est l'image moderne que se donne Microsoft avec Windows 10. C'est quand même hyper important. Et c'est un vrai enjeu pour eux. Et du coup, si demain ils annoncent, ah ben finalement, il y a que 30% du parc qui est passé sous Windows 10, ça sera un échec.
Ouais. Et puis ça pose des problèmes à tout le monde aussi. Il faut
donc,
pas oublier.
Dans un premier temps, ils ont dit, bah, c'est gratuit. Comme ça, ils essaient de convaincre par la gratuité et le fait qu'on ait tous les derniers raffinements technologiques et tout ça. Là, maintenant, pour aller chercher les derniers pourcentages qu'il va falloir présenter aux actionnaires, je pense qu'ils ont décidé de sortir l'artillerie lourde et de dire, bon, bah, si les gens veulent pas, eh ben, leur prochaine souris, elle marchera pas avec Windows 10. Tu vois, enfin,
c'est presque ça, ouais. Mais c'est vrai, mais c'est un petit peu le truc, c'est que c'est les problèmes et les avantages sont les deux revers d'une même médaille, et on peut pas avoir l'un sans l'autre, et si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on essaye de ne pas pousser tout le monde sur un même OS le plus à jour, et ben on va avoir un parc installé complètement
hétérogène,
voilà, avec des développeurs qui vont avoir des moments cauchemardesques à essayer d'avoir leur programme qui tourne sur toutes les versions de Windows. On l'a bien vu avec les navigateurs internet où ils arrêtent de soutenir, de supporter les anciennes versions d'Internet Explorer. Ça aide les développeurs web, mais en même temps, il y a des gens qui disent, ah bah voilà, là ils arrêtent de soutenir ça et ça, et donc c'est ma machine, elle marche plus. C'est obligatoire, c'est mécanique, ça doit se passer comme ça. Et tout le monde a raison. Les gens qui disent ça pose des problèmes et les gens qui disent ça a des avantages. Personnellement, moi je trouve que ça a plus d'avantages que ça ne pose de problèmes. Mais ça ne veut pas
moi
dire
aussi.
Que ça pose pas de problèmes.
Non, tout à fait. Moi aussi, je pense que ça a plus d'avantages. En fait, pour moi, Windows 10, c'est le jour où Microsoft a décidé de faire, j'allais dire, comme Apple. Non, mais voilà, c'est le jour où Microsoft a décidé de faire comme Apple, c'est-à-dire...
Cet élément de développement particulier était plus efficace.
Je dis pas épouser la stratégie d'Apple, ouais. C'est pas ça. Hein. Mais de faire comme Apple pour l'OS, en tout cas, qui est, ben, on va petit à petit moderniser le parc, et puis le fait de le proposer gratuitement, de dire qu'une fois qu'on est passé dessus, on a tout un tas de grosses mises à jour. Finalement, Windows 10, c'est presque, j'allais dire, la version finale de Windows, dans le sens où il y aura peut-être un Windows 11, un 12, et ce que tu veux, mais on sent bien qu'ils sont partis sur une espèce de mise à jour annuelle, comme le fait Apple, avec pas forcément une refonte complète de l'OS à chaque mise à jour, quoi.
C'est
on
ça,
est plus
ouais.
sur de l'additionnel ou de la modification. Et c'est ça que quand je dis Microsoft fait comme Apple, c'est plus dans cette stratégie-là.
Ouais.
De se
non,
dire,
mais tout
on va faire évoluer l'OS.
Ouais.
Et c'est presque la version finale. C'est-à-dire que si aujourd'hui on achète un ordinateur sous Windows 10, Il y a peu de chances pour que Microsoft nous refasse le coup des processeurs Skylake qui fonctionnent pas si on change pas à la version Windows 11, tu vois.
Ouais.
Parce qu'ils vont faire maintenant de l'incrémental et maintenant qu'ils ont remis à plat leur OS, quoi.
Ouais, tout à fait. Oui, oui. Non, mais moi je suis assez d'accord. C'est une chose qu'ils devaient faire à un moment et qu'ils font bien. Et attendez-vous.
Voilà.
Ouais. Et attendez-vous aux grandes dames de certains à ce que la prochaine annonce, ça soit votre souris ne marchera pas si vous ne passez pas sous Windows 10.
C'est ça.
Ça me paraît pas mal. Et justement, on évoquait Apple. Et ben, Apple aussi a des petites rumeurs par-ci par-là qui traînent. Ils auraient peut-être une conférence qui aurait lieu en mars, et on a certaines théories sur le contenu de cette conférence. Alors, la première chose, c'est qu'il y aurait des petites mises à jour sur l'Apple Watch, mais sur l'OS, et des nouveaux modèles, mais pas de des nouveaux modèles cosmétiques, quoi. Pas de nouveaux, de refonte complète de Apple Watch 2, en fait. Voilà, donc rien d'incroyable. Il y aurait un iPhone 4 pouces qui ne s'appellerait pas le iPhone 6C comme ce qu'on pensait pendant un moment, mais plutôt le 5SE. Donc,
c'est un mec de chez Samsung, non, qui est venu faire le 5SE Pro Galaxy Platinum.
Ouais, ça aurait été logique d'en faire un 6C en fait, mais ouais, non, oui, bon, ouais. Ils ont pas voulu. Enfin, on sait pas, hein, mais d'après les rumeurs, ça serait en fait effectivement avec les bords arrondis, il aurait Live Photo, etc. Donc, ça serait en gros un petit iPhone 6, même avec un processeur d'iPhone 6. Donc, si vous voulez un iPhone et que vous cherchez un iPhone avec écran 4 pouces, donc de taille un petit peu plus réduite que les derniers modèles, et ben peut-être que vous devriez attendre un petit peu parce que mars-avril, ça serait peut-être disponible.
Ouais, c'est fou ça, que c'est des appareils entre guillemets encore du succès quand on voit la taille finalement du 6S.
Oui.
Et 6, je trouve pas qu'il soit si gigantesque que ça, en fait.
Non, mais il y a des gens qui aiment encore les appareils 4 pouces, tu sais, relativement petits. Il y en a.
Ouais, ouais, ouais.
J'avoue que moi, complètement en accord avec tout ce que me disaient les gens qui se moquaient de mon petit iPhone 5 à l'époque, ou 4S, en me disant, mais une fois que t'as un téléphone plus grand, tu peux plus t'en passer, machin. Moi, je disais, ouais, je sais pas trop. Bah si, effectivement, je pourrais jamais revenir. Enfin, je pourrais jamais. Si, je pourrais, mais ça me ferait chier. Mais il y a des gens qui préfère ça, quoi. Donc
non, mais je peux comprendre, mais
et puis
je trouve pas disproportionné le 6 rapport au 5, en fait.
Mais c'est aussi un moyen de vendre un truc un peu moins cher.
Oui.
Alors chez Apple, un peu moins cher, faut des guillemets, mais
voilà, ça.
Mais bon, c'est un moyen pour eux d'offrir quelque chose d'un petit peu moins cher, un produit un petit peu plus d'appel.
Produit d'appel, ouais, voilà.
D'appel à 500 balles, quoi.
C'est ça.
Et puis peut-être un iPad Air 3. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ces appareils ne sortent que maintenant et pas comme traditionnellement à l'automne, parce que ils ont dû se concentrer un petit peu plus sur les autres appareils qu'ils avaient présentés à l'automne, ou alors peut-être qu'ils veulent décaler le cycle de calendrier,
ouais,
sortie, hein, c'est possible aussi. Mais l'iPad Air 3, on ne sait pas exactement ce qu'il aurait. Il n'aura pas de Force Touch, mais par contre, comme sur aucun iPad, en fait, c'est la technologie est un peu compliquée à appliquer à des écrans plus grands que ceux de l'iPhone, comme on l'a vu avec l'iPhone 6S et 6S Plus. Mais par contre, il aurait a priori un clavier et l'Apple Pencil, voilà.
Ah, mais ça, justement, je me dis que... Bon, là, j'y ai goûté au Pencil, hein, sur l'iPad Pro, et je dois dire que c'est assez exceptionnel. Et je t'avoue que je comprenais pas pourquoi l'iPad Air avait pas été rafraîchi en même temps pour bénéficier du Pencil. Au moins juste la dalle d'écran, parce qu'ils ont bien fait à l'époque, rappelle-toi, c'était l'iPad 3 ou 4,
c'était
je sais plus,
le 4
où ils avaient
qu'ils
juste changé la connectique Lightning et,
ouais, c'est ça.
Et deux, trois raffinements à l'intérieur, mais rien de particulier. J'étais assez étonné finalement que l'iPad Air 3 soit pas annoncé en même temps avec la compatibilité Pencil. Mais par contre,
ouais,
si
c'était un peu surprenant, c'est peut-être
n'avait pas de compatibilité Pencil, je comprendrais pas par contre.
Ouais, non, c'est sûr que s'il y a que
le mini l'est pas, je peux l'admettre parce que l'écran est petit et au stylet, bon. Mais le R, s'il n'a pas de compatibilité Pencil, là par contre, vous allez m'entendre crier.
C'est bizarre.
Je vais hurler.
Ouais, bah oui, c'était peut-être parce qu'ils se concentraient au niveau ingénierie sur l'iPad Pro, c'était peut-être parce qu'il y avait des questions de capacité de production d'écran, bon, on sait pas, mais Voilà donc pour la conférence de mars. Il y a aussi une nouvelle version de TVOS 9.2, ce dont on se fout complètement, sauf que il y a l'application podcast qui va arriver avec cette version du nouvel OS, donc je voulais le mentionner quand même, hein, c'est important.
Et les dossiers.
L'application podcast. Les dossiers, oui, mais beaucoup moins important que l'application podcast.
Tout à fait, je te l'accorde, mais les dossiers quand même, pour moi, c'est important parce que je commence à avoir pas mal d'apps sur l'Apple, enfin, sur Apple TV, ouais.
Ouais.
Et donc, du coup, j'aimerais bien les réunir dans des dossiers, quoi.
D'accord.
Surtout
des
applis éducatives et tout qui sont mélangées au milieu de Netflix et le reste. Tu vas me dire, Netflix est une appli éducative, peut-être, mais... Mais voilà quoi.
iOS 9.3 aura quelques éléments en plus, comme notamment le support du multi-utilisateur pour les iPads, mais pas pour vous, uniquement pour les écoles.
C'est
donc voilà, vous n'aurez pas. Peut-être qu'ils font ça au début juste pour les écoles et puis qu'après. Ouais. Mais vous vous rendez pas compte. Si vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs avec des comptes différents sur un iPad,
peut-être qu'on achète qu'un seul iPad.
Exactement. Donc voilà. C'est pas intéressant. Et il y a aussi la question du mode nuit qui émettra moins de lumière bleue. Ouais, bah oui, ça sera. Bon, je l'active.
J'attends assez ce mode-là. Mm.
Oui, moi aussi, j'ai parfois du mal à m'endormir, mais ça date pas des iPads, donc je pense
non,
pas
mais
que ça soit
moi,
ça.
C'est même pas pour ça. Moi, c'est que des fois, ça m'arrive d'allumer mon iPhone la nuit. Enfin, tu vois, je me lève la nuit puis je regarde sur le téléphone.
Et ça t'éclate les yeux.
Même s'il est au minimum, ça me brûle la rétine, quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, ça m'arrangerait qu'il passe en night shift.
Ouais. Il y a quelques autres petites news, comme par exemple le fait qu'il soit en train petit à petit, mais sûrement, de supprimer la partie de leur équipe qui s'occupait des iAds. Vous vous souvenez de cette initiative qui allait intégrer le revenu généré par les pubs chez Apple avec un réseau
beaucoup.
De pubs. Ah mais jamais. Je crois que j'en ai pas vu une seule.
Je crois que c'était Jérôme à l'époque qui était très enthousiaste sur ça.
Ah mais moi aussi, je pensais que c'était une très très bonne idée, hein, de la part d'Apple. Enfin, à vrai dire, c'était une bonne idée, mais ils ont pas réussi à concrétiser parce que l'idée était de récupérer une partie du revenu de la pub parce qu'il y avait de plus en plus d'apps qui alors pour résumer bien sûr les apps sont en vente sur l'App Store et Apple récupère 30% du prix de vente. Par contre, si une app est gratuite, eh ben ils récupèrent rien, et quand les développeurs mettent des pubs dans leurs apps, eh ben ils gagnent de l'argent mais Apple récupère rien. Donc ils s'étaient dit, on va essayer de récupérer une partie du revenu en proposant nous-mêmes notre propre régie pub avec notre agence de création de pub du même coup. Sauf que je pense que pour une société comme Apple où ils passent 3 mois à ergoter sur une demi-virgule, je pense que c'était pas tout à fait adapté à ce type d'environnement. Donc
le beurre, l'argent du beurre et tout ça.
Donc voilà, ça va disparaître, et du même coup le iTunes Radio va passer derrière le paywall d'Apple Music. Bon, iTunes Radio, je sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui s'en servaient, je crois même pas que c'était disponible en France.
Je crois pas.
Donc voilà, mais ça passe à la fin du mois derrière Apple Music. Par contre, Apple Music, je suis toujours Ouais, je suis assez content. Je sais que la plupart des gens aiment.
Sophie l'utilise, je l'ai sur l'Apple TV, enfin, c'est vraiment top. Hein.
Ouais. Je sais que beaucoup de gens préfèrent Spotify, mais. Et dernière chose, on parlait la dernière fois de la question de la suppression du port jack.
Lightning. Enfin, jack pour le profit du Lightning ou autre.
Voilà, sur le prochain iPhone. Et entre parenthèses, entre-temps, j'ai vu une vidéo de Marques Brownlee qui dit avec beaucoup de justesse que, en fait, ça n'a rien à voir, a priori, avec la finesse, parce que les iPods, les petits iPods sont plus fins et ils ont quand même un port jack. Donc, c'est peut-être pour une question de place, mais pas pour une question de finesse. Mais, en tout cas, on se disait peut-être que ça pourrait être remplacé, bon, par des ports Lightning, mais aussi par des écouteurs vraiment entièrement sans fil. Et il y a les premiers écouteurs entièrement sans fil qui sont comme des petites aides auditives un petit peu plus grosses en fait, qui sont disponibles. Et ben ça coûte, tu sais combien?
Oui, je le vois écrit dans les
D'accord.
notes.
D'accord,
oui.
$300.
Ouais.
Bon, ça fait cher, c'est sûr. Hein, mais.
Mais tu sais, enfin c'est rigolo parce que moi quand j'ai vu qu'ils allaient supprimer le port jack, je me suis dit, ah ouais, mais en fait je me suis dit mais je l'utilise jamais en fait. Mais vraiment jamais, c'est-à-dire que j'ai un casque sans fil Bluetooth depuis très longtemps.
Et parce que toi, t'es à la pointe de la technologie, mais
Non, 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 mais c'est même pas ça. Mais alors, tu vois, à la limite, les écouteurs, j'utilise sur mon Mac ou mon iMac, puisque ils gèrent le micro sur les écouteurs. Et du coup, pour des conférences et des vidéoconférences, ce genre de trucs, c'est assez cool. Mais en fait, je l'utilise pas sur l'iPhone lui-même. C'est quand même fou.
Moi, je l'utilise beaucoup, mais c'est vrai que... Enfin, plus, ce qui est intéressant... Ouais.
En plus, le casque que j'ai, tu sais, est multi-device, donc il est connecté et à mon iPad... Et à mon téléphone, ce qui fait que bah peu importe celui que j'utilise, il balance le son et puis voilà quoi. Et je l'ai même essayé sur l'Apple TV, il marche bien le casque Bluetooth. Ouais.
D'accord. Bon, écoute, oui, c'est sûr qu'il y a, c'est possible, hein, ça, on en doutait pas. Mais ce qui est intéressant avec ces petits écouteurs sans fil là, ces petits mini,
c'est comme le Moto Int. Rappelle-toi là.
Ah oui, oui.
Petit truc qu'on mettait dans l'oreille et qui faisait comme dans le film Her en fait.
Ouais. Mais là, c'est exactement ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que alors c'est des sociétés qui s'appellent Braggy et Irin qui les rendent disponibles, qui fabriquent ces trucs. Mais ce qui est intéressant, bon, ils ont pas une super connectivité, la qualité de son est pas géniale.
Ça selon la taille de l'objet, l'antenne.
C'est
ça.
C'est selon le test du Wall Street Journal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils incluent tout un tas de petits capteurs. Et en fait, ils font plus que juste être des petits écouteurs. Ils ont des petits capteurs, ils peuvent ils ont le micro, donc tu peux leur dire quand tu évoquais Her, on peut imaginer que ça deviendra un petit peu plus proche de ça à terme, voilà. Donc moi je suis intrigué, on va dire. Si Apple sort un truc avec une véritable intégration, on en revient à ce qu'on se disait la dernière fois, c'est oui, OK, supprimer le port jack, peut-être, mais pourquoi? Le pourquoi n'est pas une excellente réponse, ça fait un peu chier quand même, quoi.
Ouais.
Et enfin, dans nos news principales, on avait le petit article de Rue 89 qui a été envoyé sur le Reddit par le patriote des Vignerons, décidément très actif le garçon, qui nous résume... Alors, il y a plusieurs articles qui résument les parties importantes de la loi numérique et où on en est, ce qui a bougé, ce qui a pas bougé. Évidemment, la loi numérique, c'était une énorme affaire l'année dernière et il y a eu toute cette consultation publique, etc. Et la chose suit son petit bout de chemin législatif. Et donc, elle est passée devant les députés. Et maintenant, il va y avoir un vote au Sénat. Et on a eu différents amendements. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de passer en revue cet article. J'en ai eu plusieurs, hein, mais celui-là est vraiment bien foutu. Et puis, il a les impressions principales. Il est sur Rue 89, hein, donc sur le site du Nouvel Obs. Et donc passons le top 10 des... on va pas tous les lire entièrement, mais je vais vous en résumer quelques-uns. Et puis tu m'interromps, Cédric, quand tu veux mentionner un truc, hein, bien sûr. Tu es libre de faire ce que tu veux. Alors, première chose importante, la CNIL va pouvoir imposer des amendes. Elle a toujours pu imposer des amendes, mais jusqu'à maintenant, c'était limité à 150 000 euros, ce qui fait pas forcément très très mal aux sociétés à qui les amendes peuvent être imposées. Et ben maintenant, ça devient un maximum de 20 millions d'euros. Donc 150 000 à 20 millions, effectivement, là tout de suite, ça pique un petit peu plus, quoi.
Un peu plus.
C'est pas plus mal, hein, parce qu'on sait que la question des données et de la protection de nos données est extrêmement importante. Et effectivement, 150 000 euros d'amende, on sait bien que pour une société, pour la faire réagir, il faut lui donner un petit coup de pied là où ça fait mal. Là où ça fait mal,
c'est bien, mais là aussi, tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, est-ce que ces grandes sociétés, du coup, voudront se conformer au droit français ou plutôt dire, ben non, on n'ouvre pas le service en France parce que c'est pas un marché suffisamment intéressant ou les gens sont pas suffisamment nombreux, ça demande plein d'adaptations, plein de choses.
Oh, je crois qu'une société, à partir du moment où elle commence à faire une extension, si elle n'est pas déjà basée en France, une extension internationale, à partir du moment où tu vas t'installer en Europe, bah la France, l'Allemagne, c'est les deux pays où tu regardes, quoi.
Tout à fait. Avec remarque, l'Allemagne a des choses beaucoup plus contraignantes, par exemple sur Google Maps et tout ça, sur Street View et tout en particulier.
Oui, là, ça devient carrément. Enfin, ils sont très, très, très attachés à la protection de la vie privée, hein, en Allemagne. C'est assez impressionnant. Mais bon, disons qu'en tout cas, là, la CNIL pourra faire quelque chose. Elle était censée agir et là, elle pourra. Donc, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Je sais pas, mais en tout cas, ils pourront. Moi, je trouve ça très bien.
Ah oui, moi aussi, je trouve ça très bien. Hein, ouais. C'est clair.
Un système d'exploitation made in France. Ça, c'est un petit peu... Bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que C'était pas la première fois qu'on évoquait la chose, mais c'est, l'idée était d'avoir un système d'exploitation qui était conçu par la France et pour la France. Et comment dire, c'est tellement compliqué. En fait, il va y avoir un comme il l'explique dans l'article, un commissariat à la souveraineté numérique. disons que l'idée, a priori, moi j'aime bien l'idée d'avoir un OS souverain. Pourquoi pas un OS qui soit développé par la France, on sait ce qu'il y a dedans, on sait comment il fonctionne, pourquoi pas. Le problème, c'est que dans la pratique, c'est irréalisable.
Enfin, c'est
voilà, il y a déjà, on a du mal à imposer un OS ouvert comme Linux qui a tous les avantages par rapport, enfin qui devrait avoir tous les avantages par rapport à des OS.
Moi, je vois surtout un autre problème. C'est que ça, c'est un impôt, alors non pas à Troll, mais à toutes les entreprises qui se gavent des subventions et des aides publiques, parce qu'il va y avoir un appel d'offres sans doute pour travailler là-dessus et tout ça. Et on se rappelle, je sais pas si tu te rappelles du cloud souverain.
Ah oui, ça
Cloud
dit quelque
Watt
chose.
Et tout ça, qui a fait un four complet et les gens ont pris de l'argent public et sont partis, quoi. Il n'y a jamais rien eu de fait. Je sens bien encore un projet de ce style-là. C'est-à-dire qu'on va confier à un copain du copain du copain de... Ouais. D'un ministre, le soin de développer ça, et à la fin, on finira par rien du tout, ou
Ouais, bah écoute, même si c'est pas les copains des copains, Numérama a essayé d'estimer le coût de tout ça, et ils sont à peu près 700 millions d'euros sur 5 ans.
Après, si on peut faire tourner World of Warcraft dessus, ça devrait marcher. Sinon, vous oubliez tout de suite.
Ben oui, mais le problème, c'est que moi, je veux bien qu'on essaye effectivement plein de trucs, mais il faut aussi être un tout petit peu réaliste. Idéalement, on n'en aurait un. Mais franchement, demandons à n'importe quel expert qui connaît, enfin même pas connaisseur de cet univers, et on sait très bien que c'est 700 millions d'euros estimés. Hein. Ça se trouve, ça sera moins, ça se trouve, ça sera plus. C'est, enfin, il y aurait mieux à faire avec, quoi. Parce que là, c'est vraiment le jeter par les fenêtres. Moi, je pense que peut-être, j'aimerais bien me tromper, mais t'es d'accord, ça sera jamais, quoi.
Ouais. Non, mais qu'à la limite, par la loi et par la CNIL, justement, on arrive à imposer, mais rien du tout, on est qui pour imposer, quoi. Mais qu'en gros, on oblige les sociétés qui font du business chez nous avec leurs OS, Microsoft, par exemple, ou même Apple, à respecter certaines conditions. Et à la limite, on n'aurait pas besoin de la souveraine. Mais après, je ne suis pas un bisounours. C'est-à-dire que ces gens-là vont dire oui, oui, et puis en fait, ils ne feront rien. Mais je ne sais pas.
Bah,
l'équation est compliquée à résoudre. Mais...
Ouais, mais je crois que si, on a moyen d'imposer...
Parce qu'en fait, ce que disent les députés, en gros, c'est « Mais vous pensez vraiment que Windows est apatride ?» Ouais, ok. bon. ouais, c'est une boîte américaine, mais à la limite... Je dis pas non plus que Microsoft, ce que fait Microsoft, c'est pas non plus humaniste à l'échelle de l'humanité entière et de la Terre entière. Tu vois, évidemment, c'est une société américaine qui fait même de l'optimisation fiscale comme tous les autres. Mais in fine, est-ce que pour le bien de l'humanité, il faut un OS souverain français? Je ne sais pas.
Ouais, moi je crois que c'est vraiment le genre d'annonce qui fait bien.
Mais plutôt que de brasser du vent, il y a peut-être des choses plus importantes à faire.
On est d'accord. Comme par exemple, parler de la troisième point évoqué, le revenge porn, vous savez, c'est cette pratique qui consiste à diffuser des images intimes d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe pour se venger d'une séparation douloureuse ou ce genre de choses. Alors, ça sera désormais puni plus sévèrement. Ça va jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 euros d'amende.
Parfait.
Je ne sais pas s'il fallait une loi spécifique pour ça.
Pour le revenge porn.
Peut-être, je sais pas. Mais bon, enfin, en l'occurrence, maintenant,
c'est
passé.
C'est bien, mais après, est-ce que c'est... Si, c'est bien. Après, c'est un nouveau délit, finalement.
Oui, c'est
un
vrai,
nouveau,
c'est
non,
vrai.
Parce que je pense que ça devait exister.
Ouais, c'est ça que je me dis.
Sans l'aspect public d'Internet, en fait.
Ouais, je me dis que... Enfin, ça me paraît très bizarre que ça soit pas déjà un délit grave de diffuser ce genre d'image, tu vois. C'est peut-être qu'il faut une loi spécifique. On a moins de jurisprudence en France que dans les pays anglo-saxons. Donc, peut-être qu'il faut faire une loi par délit spécifique.
Oui, tout à fait. Oui, parce que si elle y est pas, tu vois, en absence de loi...
Ça me paraît très étrange, effectivement, que en l'absence de loi, la personne qui se rend coupable de ce genre d'acte se retrouve juste avec une petite tape sur la main, genre le refait plus, quoi.
Non,
mais peut-être, je sais pas.
Mais là, on aggrave le délit aussi, c'est ça qui...
Bon, Internet est désormais un bien de première nécessité.
Parfait.
Ça veut dire que c'est... Ouais, alors, bon, pas exactement, exactement. Mais effectivement, on ne peut plus couper la connexion Internet de quelqu'un qui n'aurait pas le moyen de la payer, au même titre que l'eau, le gaz ou l'électricité. Sachant qu'on peut tout de même, un FAI peut restreindre l'accès d'une personne qui ne paye pas sans en couper complètement l'accès à Internet. C'est-à-dire que il faudra tout de même préserver l'accès à certains services, dont des services de communication au public et des services de courrier électronique. Donc, on pourrait imposer un accès limité à Internet si la personne ne paye plus, mais on peut pas couper complètement. Et ça va dans le bon sens, l'idée que Internet est un produit de première nécessité, enfin, service de première nécessité, ça me semble à moi évident, mais... le droit à l'oubli et l'abord numérique seront un petit peu plus encadrés. On peut récupérer les données personnelles quand quelqu'un décède. A priori, il faut s'organiser avant, hein, comme on l'a déjà vu avec Google et Facebook. Finalement, ils ont pris un petit peu les devants sur le sujet, mais en fait, on peut. Il faut pouvoir s'organiser pour léguer l'accès à ces services informatiques et la récupération des données quand on décède. Donc ça c'est une bonne chose. Là on voit que ça a été les sociétés ont pris les devants parce que c'est un problème qu'on a constaté déjà il y a un moment, mais tout le monde devra le faire désormais, ce qui est pas mal. Les liens hypertextes sont sauvegardés. Alors, il y avait eu des amendements ridicules qui avaient été déposés pour essayer de contraindre le lien hypertexte à une confirmation du droit du contenu qui était hébergé derrière ce lien. C'est-à-dire que si moi, je voulais faire un lien au site geeking.fr, il fallait que je te demande, enfin surtout que je m'assure que, en plus, sur ton site geeking.fr, tu n'hébergeais pas au hasard des vidéos
de
revenge porn ou de c'est plutôt le problème du côté de du copyright, par exemple des derniers X-Files, tu vois.
C'est ça.
Et si jamais tu le faisais et que je mettais moi un lien vers ton site, eh bien moi j'étais possiblement poursuivi en justice. C'était un
système. Je précise aux gens, je n'héberge pas les derniers épisodes d'X-Files.
Ah, damned. Et ouais, comment je vais les trouver, moi?
Ça. Bon. C'est ton problème.
Donc voilà, cet amendement n'est pas passé. Enfin, ça aurait été dramatique, évidemment. C'était ridicule,
Là, franchement, je pense que ça aurait été ridicule, ouais.
Oui, oui. Pour le moins. Portabilité. Ah, je crois que j'ai mélangé l'histoire avec le droit à l'oubli et la mort numérique. Le droit à l'oubli est surtout pour les adolescents, pour les enfants, qui est plus important et qui est renforcé. On a beaucoup parlé du droit à l'oubli, donc voilà. La portabilité, c'est effectivement le fait de récupérer ces données. Et là, on parlait d'imposer à des sociétés américaines le fait de pouvoir, imposer la loi. Et ben là, ça va être imposé, donc voilà. La liberté de panorama, en fait, c'est le fait qu'on n'a pas le droit, normalement, en théorie, de publier une photographie de monuments publics, enfin de certains monuments, comme par exemple la Tour Eiffel la nuit ou la Défense, parce que les éclairages et certains monuments et certains bâtiments sont copyrightés, exactement. Et bien là, il y a une sorte de statut sur la chose en question. Et c'est pas qu'en France, hein, il y a le cas un petit peu partout ailleurs. Donc là, on aura le droit de le faire si ça n'est pas à but lucratif. Donc voilà, un petit peu normal. Ça veut dire qu'on a le droit de publier nos photos de vacances, quoi. Merde. Donc.
Ouais, mais sur ton blog, si t'as de la pub.
Ah oui, non, mais là, je crois que.
Je
sais pas. Non, mais c'est de toute façon, tu les publies sur Facebook maintenant, donc c'est tout Facebook qui a de la pub, c'est pas toi.
Oui, mais si tu les publies sur ton blog et que toi tu gagnes de l'argent avec la pub sur ton blog.
Eh ben, t'as pas le droit.
Là.
Exactement.
Tu vas
ça dépend
des problèmes.
C'est vrai. Airbnb va être un petit peu mieux encadré. En fait, il faudra prouver qu'on a le droit de louer, de sous-louer un appartement quand on le mettra sur Airbnb, parce qu'il y a beaucoup de gens qui louent, qui sont locataires et qui sous-louent sans en avoir le droit, ce qui est illégal en France. Donc voilà, ils vont réencadrer un petit peu tout ça. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas le cas dans tous les pays. En Finlande, par exemple, on a le droit de sous-louer un appartement sans aucune autorisation de quoi que ce soit.
Ah, ouais.
Donc ouais, c'est, j'ai été surpris de l'apprendre parce que c'est vrai qu'en France on n'a pas le droit
de jouir du bien à partir du moment où tu le payes, alors ça semblerait logique.
Ouais, mais enfin la sous-location n'est pas autorisée. Donc
non, tout à fait. En France, tu faut avoir l'autorisation du propriétaire. Mmh,
c'est ça.
Il faut un courrier manuscrit. Je sais, je l'ai fait moi pour le studio de Geeking. Donc
d'accord. Donc, et voilà. Ben voilà. Et enfin, dernier point, les communs, qui sont donc les biens qui sont partagés par tout le monde, sans que personne n'en détienne la propriété, eh bien, ils ne seront pas protégés spécifiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'exister, hein, mais et puis l'histoire n'est pas terminée, comme ils le disent dans l'article. Mais il y avait un abonnement qui avait été pourtant... Qu'est-ce que j'ai dit ?
Un abonnement.
Non, j'ai dit non, amendement, qui avait été pourtant très soutenu par le public sur la protection des communs. Et malheureusement, l'amendement a été rejeté, évidemment, au motif que ça mettrait en danger, d'une certaine manière, la protection de la propriété intellectuelle et le copyright. Alors, le combat n'est pas neuf et il y aurait beaucoup à en dire. Mais oui, c'est un petit peu une déception tout de même. Mm. Voilà pour les 10 points, il y en a bien d'autres hein, évidemment. La loi va maintenant passer chez les sages du Sénat et on va voir ce que ça donnera à la sortie. Mais le truc suit un petit peu son bonhomme de chemin. C'est bien par certains côtés, c'est un petit peu décevant par d'autres. C'est le jeu formidable de la démocratie.
C'est ça.
Poétique. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour nos trois sujets principaux et on va passer maintenant à nos news et à nos rumeurs. Mais avant tout, bien sûr, je vais remercier une autre poignée de patriotes qui choisissent de soutenir financièrement, monsieur, l'émission.
Avec de l'argent.
Avec du vrai argent qui sort de leur poche et qu'ils pourraient utiliser pour bien
américains.
D'autres choses. Pour bien d'autres choses. Et donc, je les remercie doublement de le consacrer, cet argent, au soutien de l'émission. Et je remercie spécifiquement Antoine, Olivier, Georgeon, Zorki, Jérôme, Bab, HB, Audrey, Friche, Vincent... ou 20 Cent, bon, il y a un petit jeu de mots là à faire, Fabien Hannes et Manuel Payet. Merci à vous 10 et merci à tous les autres de nous soutenir et de me soutenir dans mon entreprise impitoyable de d'actu tech et de, j'allais dire, de reporting, comme on dit en anglais, mais en français, ça voudrait dire genre un truc un petit peu différent. Donc, merci à vous tous de soutenir l'émission. Si vous voulez faire comme eux, vous le savez, c'est patreon.com/rdvtech et vous pouvez contribuer à la marche inexorable de la révolution numérique en me payant des bières. Et aussi, accessoirement, en faisant en sorte que je puisse payer mon loyer, ce qui est extrêmement important aussi. Donc voilà, c'est patreon.com/rdvtech. Merci à eux et merci à vous tous. On enchaîne avec les news et rumeurs sur lesquelles on va aller un petit peu plus vite. Avec Google qui ouvre une division entière dédiée à la réalité virtuelle. Le vice-président du product management qui s'appelle Clay Beavor est désormais responsable de cette division de réalité virtuelle, ce qui est un signal assez fort. Et du coup, c'est encore un acteur de plus qui se met à fond dans la réalité virtuelle, quoi. On est une preuve de plus que c'est plus qu'une tendance pour cette année.
Ouais, je suis vraiment pas convaincu. C'est fou, hein.
Je
sais que je suis enthousiaste pour plein de choses, mais là, je suis pas convaincu.
Par la réalité virtuelle dans son ensemble ?
Ouais.
Ah oui, mais pourquoi ?
Il y a quelques petits trucs qui me font dire « Ah, c'est pas mal, mais ce sont que des usages ponctuels, je vois pas comment ma vie va changer avec ça, quoi.
» Donc
j'ai pas encore vu le truc qui fait que je veux tout de suite acheter des Oculus ou autre. J'ai pas encore vu le truc qui allait déclencher ça chez moi. J'ai bien envie de marcher sur Mars avec un casque. Mais je le ferai une fois, deux fois, et puis ça s'arrêtera, quoi, tu vois. Enfin, ouais. C'est une expérience à vivre à la limite dans une fête foraine. Enfin, j'exagère. Mmh. Mais, Mais tous les jours, je sais pas. J'arrive pas à être convaincu. C'est fou, hein.
Non, non, mais moi je te comprends tout à fait, hein. Je le dis depuis un moment, c'est la grande question de la réalité virtuelle. Est-ce que ça va être plus que ça? Et on sait pas. On sait toujours pas. Donc, bon, Netflix a annoncé et a commencé à faire la guerre au VPN. Donc, si vous utilisez un outil pour faire croire à Netflix que vous habitez aux États-Unis et du coup regardez les programmes disponibles uniquement aux Américains, eh bien peut-être que d'ici peu vous ne pourrez plus le faire. En tout cas, il y a eu des signaux un petit peu contradictoires de la part de Netflix, puisqu'il disait il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, ouais bah de toute façon les VPN on s'en fout, et ça marche bien, voilà. Et ils ont dû recevoir un coup de fil de gens un petit peu énervés.
Voilà, en leur disant « Ah ouais ça... ?» Eh ben dans ce cas-là, je retire tout mon catalogue. Ouais. Et là, ils ont dit « Ah non, alors attendez, finalement non. Finalement, c'est mal compris, c'est pas ce qu'on voulait dire. En fait, oui, on va lutter contre... » Mais d'un autre côté, en fait, Netflix se plie à la loi. Comme quoi, tu vois, aucune société aussi puissante soit-elle... ne peut pas ignorer la loi. Ouais. Et Netflix le fait pas pour embêter ses utilisateurs, hein. Ils le font vraiment pour se conformer aux lois des pays dans lesquels ils sont, et en particulier la France, avec la chronologie des médias, donc, qui fait qu'on doit attendre plusieurs mois voire plusieurs années avant de bénéficier de certains contenus.
Alors pour les films, effectivement, c'est 3 ans avant que ça arrive sur la SVOD.
Voilà, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus court, et donc ça permettait de voir certains films américains avant. Et voilà, et donc le problème qu'il y a, c'est que du coup, Netflix se retrouvait malgré lui à contourner la loi. Enfin, c'est pas eux qui l'avaient décidé, mais c'est les utilisateurs qui contournaient la loi grâce au système. Et en gros, on leur a dit, bon, maintenant, faites quelque chose, parce qu'il faut pas que ça continue, quoi.
Ouais. Voilà. Et du coup, bon, maintenant, c'est le jeu du chat et de la souris permanent, où les VPN, les sociétés de VPN vont trouver de nouvelles IP, en fait, et de nouveaux points de sortie pour leur réseau, et Netflix va les bloquer autant que possible, et puis.
Et ainsi de suite.
On se demande aussi si, dans une certaine mesure, c'est pas un effet d'annonce, et puis qu'après, ils vont se calmer, Netflix, parce que ils savent qu'ils peuvent pas gagner non plus, mais ils peuvent compliquer un petit peu la vie des gens suffisamment pour que ça soit.
En plus, je pense, Netflix, c'est leur but, hein. Netflix aimerait vraiment être global, y compris avoir qu'un seul catalogue. Imagine comme ça serait beaucoup plus simple à gérer pour eux.
Déjà, s'il y avait une uniformisation en Europe, ça serait déjà pas mal.
Ouais. Et donc, s'ils avaient qu'un seul catalogue à gérer, ça serait parfait pour eux. Donc, ils le font pas de gaieté de cœur. Et là, c'est juste pour montrer qu'ils sont de bonne volonté afin d'éviter de perdre des contenus, quoi.
Alors, HBO est aussi en train de suivre la route de Netflix. On sait qu'il y a HBO Nordique, dont je vais pouvoir bénéficier, moi, quand je serai en Finlande.
Winter is coming.
C'est ça. Et ils arrivent en Espagne. Donc, peut-être que ça gagne le sud de l'Europe aussi.
Summer is coming.
Slack.
À la playa.
Oui, c'est ça, Summer is coming. J'avais vu une image très sympathique tu connais le Winter Soldier de Marvel. Eh bien, il y a une photo qui traînait sur Reddit où il y a le Winter Soldier qui est très méchant, énervé avec son truc et tout. Et à côté, t'as le Summer Soldier qui est le même avec des palmes et un casque de plombée, tout ça, qui est très très bien. Bref, petite blague mise à part. Skype est en train de lancer son intégration Slack. Et des vignerons, encore lui, nous a mis un article sur le Reddit qui nous explique comment Facebook est en train de préparer la guerre contre Slack. Donc, c'est juste pour montrer, pour préciser encore une fois à quel point Slack est en train de devenir important dans le monde du business. Ceux qui utilisent le Slack des patriotes pour discuter, et d'ailleurs c'est marrant, on discute de pas mal de sujets qu'on traite dans l'émission, donc maintenant j'ai déjà un petit contact avant et différents arguments, c'est super sympa. Donc nous on s'est mis à l'utiliser, enfin tout le monde se met à l'utiliser. Geeking, d'ailleurs j'ai pas d'accès au Slack. Mais c'est parce que t'es passé sur Tipeee, mais je suis con.
Non, pas encore.
Ah, t'es pas encore, d'accord.
Non, mais je vais te l'ajouter.
D'accord. Mais non, mais c'est parce que c'est un certain niveau que j'ai pas.
Non, c'est parce que c'était pas moi qui étais en charge d'inviter.
D'accord.
Et la personne qui était en charge d'inviter est partie.
Ah, d'accord, ok. Oui, mais non, mais ça fait longtemps, là. Bon, ok. Bon, écoute,
Pas fait la mise à jour, il a fait qu'une fois par mois. Ah, ok.
Bon, bah, ça fera jamais que le 12e Slack auquel je vais devoir participer. mais oui, voilà. Donc, Slack, très important. Donc, si vous ne vous en étiez pas encore rendu compte, sachez que ça a des conséquences un petit peu partout dans le monde du business. C'est assez impressionnant.
Vas-y, je suis en train de t'inviter.
Ah, super. Bon, écoute.
Retrouve ton adresse email.
Mais tu la connais.
Ouais, je la connais pas par cœur. Excuse-moi. Tu sais, avec tous ces calendriers,
elle est compliquée,
tous ces trucs.
C'est vrai.
Mais elle est hyper dure, faut dire.
Bah, c'est vrai, c'est vrai.
Tu préfères celle en French Spin ou?
Non, l'autre.
Ah, ok.
D'accord. Bon, on finira notre petite salade après. ESPN.com a publié une section e-sport sur leur site. On se rend compte depuis quelques mois que l'e-sport est en train de sortir du domaine de l'e-sport uniquement et en train d'envahir on en parle souvent dans l'émission et surtout dans le rendez-vous jeu. Eh bien, ça se confirme. Surtout, c'est marrant chez ESPN parce qu'il y a 2 mois de ça, il y avait un des présentateurs vedettes de la chaîne de sport américaine. C'est la plus grosse chaîne de sport américaine, hein, très très importante. Il y avait un de leurs présentateurs vedettes qui disait e-sport sur ESPN. Moi vivant jamais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, machin. Bon bah voilà. Bon, c'est pas encore sur la chaîne.
Mais peut-être qu'il est décédé.
Ah, peut-être, on sait pas. Je lui souhaite pas, malheureusement. Enfin, le malheureux, mais il y a d'ailleurs aussi les finales de FIFA sur, enfin, les tournois de FIFA sur l'équipe 21. Donc, voilà, ça arrive. Bon, FIFA, c'est pas mon jeu préféré, donc je regarderai pas forcément. Mais par contre, s'ils se mettent à couvrir d'autres choses, comme, je sais pas, au hasard, des jeux de combat ou des MOBA ou ce genre de choses, ça pourrait être sympa. Amazon pourrait racheter colis privés et dans le même temps ils sont en train de développer une capacité, enfin des autorisations pour devenir agent de transport entre la Chine et les États-Unis et d'autres pays certainement. Et on se dit que c'est peut-être pas uniquement pour transporter leurs propres paquets, mais aussi peut-être pour proposer un service de transport et venir faire concurrence à UPS, etc., etc.
D'abord, dans un premier temps, c'est pour eux réduire leurs coûts, c'est évident. Réduire leurs coûts, c'est vite dit, hein. Mais disons que c'est... Enfin, t'as déjà reçu des expéditions par colis privé ?
Non, jamais.
D'accord, bon. Alors en fait, c'est peut-être normal que tu les aies pas reçus.
Ah oui, c'est non, pas bien.
C'est le pire service, je pense, qui existe en France.
Ah alors, oui, d'accord.
Ah mais vraiment, hein, moi j'en ai reçu deux. Les deux ont été... Alors il y en a un qui est arrivé plus d'une semaine après, alors que je suis premium Amazon, hein. Et l'autre qui est arrivé 2 ou 3 jours après, et sur le suivi, et j'ai dû gueuler, en fait, il est arrivé 2 ou 3 jours après, mais et j'ai gueulé, parce qu'en fait, sur le suivi, il me mettait qu'il était carrément pas parti, quoi.
Donc, ah oui?
Ouais, que ça avait été pris en compte par le transporteur, et puis ça s'arrêtait là. Une catastrophe, ce service. Et d'ailleurs, si tu regardes sur Internet, tu vois bien que les gens sont pas contents, et d'ailleurs, tout le monde renomme colis privé en privé de colis. et c'est pas pour rien. Donc, le fait qu'Amazon les rachète, pourquoi pas, ça leur permet d'avoir un réseau de distribution. Et puis, je pense que ça va leur servir aussi, surtout, pour leur, tu sais, leur pick and collect, leur click and collect. Ils vont créer aussi en France, tu sais, ces consignes dans les centres commerciaux.
Ah, d'accord.
Où tu vas aller chercher tes colis là. Et pour faire livrer dans ces trucs-là, il leur faut aussi un réseau de livreurs. Et je pense que colis privé va servir aussi à ça.
Ok.
Tu vois?
D'accord.
Comment s'appelle le pick lock? Non, je sais plus comment il s'appelle leur service.
Ah oui, oui, c'est le locker.
Le locker, ouais, c'est ça.
Ouais, 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 d'accord. Ok, bon bah écoute, donc bon courage à Amazon avec colis privé. Et entre parenthèses, vous
good
souvenez
luck.
Du bouton. Ouais. Du bouton dash, et ben il sera bientôt intégré dans des appareils. Donc. Ouais, trop fort. Donc, en fait, votre machine recommandera automatiquement de la lessive s'il y en a besoin, ou votre imprimante de l'encre. Bon, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais on va pas passer trop de temps là-dessus. Je vais en sauter quelques-unes de ces news. Il y a un développeur Bitcoin qui est très inquiet pour l'avenir de Bitcoin. C'est pas le seul d'ailleurs. Il y a des préoccupations sur la manière dont se développe la cryptocurrency, la cryptomonnaie, parce qu'il y a des gros problèmes dans la communauté, dans les personnes qui gèrent cette communauté. Il y a Deezer qui lève 100 millions d'euros. Bon, bah, c'est très bien, hein, une société française qui continue à se développer, c'est très très bien. Il faut qu'il reste dans la course. Il y a notre ami Corben qui a lancé son programme Bounty Factory. Enfin, c'est pas que lui, hein. Il travaille avec d'autres sociétés, notamment Quant et comment il s'appelle la boîte
Yes We Hack.
Voilà, c'est ça. Et en fait, les programmes de Bounty Factory, enfin le programme de Bounty Factory est comparable à d'autres programmes de prix pour le fait de révéler des failles dans des programmes. En fait, ça met en relation des sociétés et des hackers bien intentionnés, qui découvrent des failles dans les programmes et qui se font payer par les sociétés qui veulent découvrir les failles dans le programme pour les corriger. Et ce genre de d'entreprise existe depuis longtemps dans d'autres pays. Il y en avait visiblement pas en France, mais bah ils ont lancé ce truc là et donc bah c'est une bonne chose, quoi. C'est bien de voir ce genre de projet dynamique, moi j'aime bien. Donc et puis en plus c'est Corben, donc
voilà, mentionné. Si on dit pas du bien, il va nous couper internet.
Bah comme c'est le chef de l'internet, voilà. Voilà, c'est ça. Softtech VC, que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que bah Jeff est l'un des fonderss de Softtech VC. C'est un fonds d'investissement. Il semblerait qu'il soit en train de lever 130 millions de dollars pour un, je crois que c'est leur cinquième fonds d'investissement. Et voilà, je voulais juste le mentionner parce que généralement on parle pas trop des news financières, mais comme c'est Jeff, vous comprenez qu'il est assez occupé parce qu'il est au milieu de tout ça.
Et, c'est millions un par un.
C'est ça. Et bon, comme c'est un petit Frenchie qui réussit dans la Silicon Valley et qui réussit pas mal, en plus c'est un ami de l'émission depuis bien longtemps, on est très fiers et je voulais le mentionner aussi. Donc voilà, GG Jeff, good going et good game. J'espère que ça continuera sur cette percée fulgurante qui continue depuis des années. À propos de levage d'argent, je crois que c'est le terme technique officiel, à propos de levée financière, il y a Patreon aussi. Alors là encore, on n'en parle pas souvent, mais en l'occurrence, c'est Patreon qui a levé 30 millions pour continuer à...
Pour le rendez-vous tech.
Ah, écoute, ça fait peut-être partie de la continuation de leur développement. Hein, donc oui tout à fait. Non, ils ont levé 30 millions, ils sont en croissance constante et régulière et ça fonctionne très très bien chez eux. Moi évidemment, je suis partie prenante, hein, j'étais l'un des premiers, vous savez que je vis grâce à ça, donc forcément ça me plaît, mais voilà, moi je suis très content parce qu'ils continuent à se développer et là ils ont besoin d'engager des développeurs et de continuer à développer le truc.
Bah, tant mieux.
Donc ouais c'est
et tu vois, nous on est content, c'est plus les utilisateurs qui n'en sont pas contents de par les mails qu'ils ont reçus suite aux fuites de données de Patreon. Et du coup, certains nous ont demandé de passer sur Tipeee, mais dans les faits, on a quand même 83% des gens qui préféreraient rester sur Patreon. Donc, il y a des chances qu'on ne déménage pas sur Tipeee, on verra.
Ah oui, finalement, d'accord. Ouais, bah, le truc, c'est que c'est sûr que c'était pas marrant, cette histoire de fuite de données, c'est arrivé, mais ça arrive partout, ça peut arriver partout. Ce qui est important, c'est comment ils gèrent le truc. Je pense qu'ils l'ont bien géré chez Patreon. Et puis surtout, moi, de mon expérience, j'ai plus confiance sur l'avenir. Encore que Tipeee a levé de l'argent aussi, hein, récemment. Mais moi, j'ai eu beaucoup plus de réactivité chez Patreon que chez Tipeee, que j'avais contacté au tout début.
D'accord.
Enfin, qui m'avait contacté. Mais bon, après, les deux systèmes fonctionnent. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacun. Tipeee est en euros, Patreon est en dollars. Donc ça peut poser des problèmes à certains. Moi, je les trouve très réactifs, je les trouve très bien. Et puis surtout, il y a des questions de gestion de TVA et tout ça que j'ai pu régler avec Patreon, que visiblement sont un peu moins faciles à gérer avec Tipeee, parce qu'il faut savoir que normalement vous devez payer quand vous recevez, enfin quand vous vendez quelque chose, un service numérique, vous devez payer la TVA dans le pays de la personne qui vous envoie l'argent, qui vous paye. Et en l'occurrence, comme bien sûr on a des auditeurs un petit peu partout, et toi et moi, on a des auditeurs partout dans l'Europe et dans le monde, mais c'est surtout en Europe que c'est important. Et donc, il faudrait que Tipeee en l'occurrence, parce que moi j'ai une société, il faudrait qu'ils nous envoient la liste spécifique de toutes les personnes qui ont donné, de où ils sont, de combien ils ont donné, le total, etc. C'est infernal, et Patreon a un système qui prend ça en charge, en fait. Ouais. Donc toi, je crois que c'est pas le même
moi,
problème,
parce que
vous êtes une association.
C'est un peu différent, parce qu'on est une association, voilà, on n'est pas sujetti à ça, mais...
Ouais. Voilà. Enfin bon, moi je fais une entière confiance à Patreon, je fais confiance à Patreon, et oui, je trouve que le système est bon, quoi. Donc,
et comme tu dis, ils sont très réactifs. En fait, on est face à un service, j'allais dire à l'américaine, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il y a très peu de boîtes, même si on s'imagine qu'elles sont énormes, des boîtes américaines. En tout cas, le service client est toujours au top. J'ai jamais eu de soucis, quoi. Mais même, tu vois, j'arrive plus à retrouver ma clé d'activation d'un logiciel ou d'un truc. Ça m'arrive des fois, tu vois, j'ai supprimé le mail comme un idiot et je veux réinstaller le logiciel. Et ben, j'écris à ces boîtes-là et elles me répondent, mais même pas dans les 24 heures, quoi. Donc, c'est juste hyper réactif. Tu fais la même chose avec une boîte française, même dans le cadre du business, et ben, t'as pas toujours la réponse, quoi.
C'est un peu l'impression que j'ai eue. Je veux pas dire du mal de Tipeee parce que.
Ah non, mais moi, je les connais pas, moi. Donc, du coup, je peux me permettre pas de juger.
Moi, c'est,
enfin,
c'est
en général.
Ouais, ouais. Voilà. C'est juste l'impression que j'ai eu les premiers. En fait, je sais plus si j'en avais parlé, mais ils m'avaient contacté au moment où j'ai lancé le Patreon et ils m'ont dit ah pourquoi vous êtes aux États-Unis, pourquoi vous venez pas en France, machin. Et je leur avais fait un long mail qui expliquait pourquoi j'avais décidé de faire comme ça, parce que moi je voulais les aider, tu vois. Je voulais les aider à. Je veux que ce genre de société se développe dans notre pays. Et je me disais bon bah moi j'ai fait un autre choix, mais voilà pourquoi, parce qu'il y avait ça, ça, ça et ça. M'ont jamais répondu, j'ai pas eu de nouvelles, ils ont pas. Donc bon, je me suis dit bah ok, tant pis, hein. C'est pas, tu vois, s'ils ont, enfin bon, bref, peu importe. Moi, je leur souhaite surtout qu'ils ont eu un investissement de Niel et de d'autres personnes. Ça fonctionne bien et moi, je crois au modèle. Donc je leur souhaite que du succès. Mais bon, bref, oui, c'est un domaine intéressant et il y a des acteurs dans ces différents domaines qui sont encore au début et c'est un moment excitant pour tout ça. Patreon qui lève de l'argent, moi je suis content aussi. Ça veut dire qu'on est sur des bases solides, donc a priori ils vont pas disparaître du jour au lendemain. Moi, ça m'embêterait.
Ou alors ils partent avec 30 millions et ça c'est bien.
et comme j'ai une petite commission, tu vois, si le c'est jour ça. Où ouais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y avait une petite question que je voulais évoquer.
On parle pas du clavier français.
Ah si, si, on a le clavier français à un moment.
Oh non.
Si, si, si. Je voulais juste très rapidement, sans relancer le débat, parler de la responsabilité des services numériques sur le contenu qu'ils hébergent. Podcast Addict et d'autres, en fait, parce qu'on avait parlé à l'épisode précédent de la responsabilité de Twitter dans la campagne de pub homophobe qui avait été publiée sur le service et pour laquelle ils avaient mis du temps à réagir en disant qu'ils voulaient attendre une décision de justice sur le sujet, ou au moins une injonction sur le sujet, qu'ils voulaient pas décider eux-mêmes. Et moi, je disais, faut faire attention sur ce genre de choses, parce que oui, dans le cas d'une campagne homophobe, évidemment, on veut que ça disparaisse tout de suite, mais il faut pas non plus, à mon sens, donner les clés à Twitter pour décider de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, on a eu quelques exemples qui venaient illustrer un petit peu ce sujet. Et la cour de, enfin, en Californie, il y a une décision de justice qui a rendu Twitter responsable des tweets de l'État islamique. Donc qu'il fallait qu'il gère la chose. Évidemment, c'est très compliqué de gérer tout ça, parce que savoir qui va tweeter quand, comment, mais surtout bon, décider de ce qui est de la propagande islamiste ou pas, on peut très vite, il y a des moments où c'est clair, il y a des moments où ça arrive à des effets de bord. Et là où ça l'illustre très bien, c'est on a souvent des exemples où Facebook va dire qu'ils veulent supprimer une image d'un nu ou d'un truc comme ça, et là tout de suite on se retrouve les mêmes personnes qui vont dire il faut que les groupes les grands groupes agissent vite pour supprimer ces contenus qui sont inacceptables. le moment où il supprime un truc que nous, on trouve acceptable, mais que d'autres vont trouver inacceptable, on va dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils nous imposent leur morale, le puritanisme américain, on n'en a rien à foutre, arrêtez de nous imposer ça. » Et c'est pour ça, c'est exactement pour cette raison que, à mon sens, il faut pas donner les clés à des sociétés de décider de ce qui est moral ou pas. Bref, une illustration de ça, c'est l'application Podcast Addict que beaucoup d'entre vous utilisent sur Android pour écouter cette émission et d'autres. C'est une application de lecture de podcast. Et Xavier, le développeur de cette application, s'est retrouvé un matin en panique totale parce que son application avait été supprimée du Play Store de Google. Mais pur et simple, supprimée, disparue en 2 secondes.
Bye.
Voilà. Pourquoi ? Alors au début, il savait même pas. Il avait aucune idée de pourquoi. Il a juste reçu un mail. Vous avez contrevenu aux règles d'utilisation, donc au revoir. C'était, et en plus c'est sa vie quoi, c'est son business lui, c'est comme bien ça, sûr. C'est de ça qu'il vit. Donc c'était la panique totale, il a contacté tout le monde, essayé. Heureusement, ça a fait suffisamment de bruit, ou alors il a réussi à rentrer en contact avec Google après pour avoir une explication et un rétablissement. Et le problème, c'était que un podcast avait une illustration qui était un nu. Je sais plus, c'était un podcast culturel, je sais plus de quoi exactement, mais ils avaient mis en illustration un nu. Et sans doute que quelqu'un avait envoyé un signalement de l'app pour contenu inadapté, peut-être pas pornographique, mais inadapté.
Apparemment, ça venait de ça, de la pochette d'un podcast ou quelque chose comme ça qui contenait des images à caractère...
D'accord.
Voilà.
Et parce que lui, en fait, il avait un système automatisé où il mettait les podcasts les plus téléchargés dans un top. Et donc, bref, maintenant, il va falloir qu'il les approuve chacun l'un après l'autre pour que ça n'apparaisse pas dans son app. Il a trouvé une solution. Mais ce que je veux dire, c'est que ça illustre effectivement le fait que quand on donne les clés de la morale à une société qui va faire les choses comme ça, moi, ça me paraît dangereux. On en avait déjà parlé la dernière fois. Ouais. Mais voilà. Quoi d'autre ? Il semblerait que, toujours dans les questions un petit peu controversées qu'on avait évoquées ces dernières semaines, on parlait beaucoup de la question des backdoors dans les messageries privées et de l'importance d'avoir accès aux messages chiffrés pour protéger la population efficacement et que les services de police puissent y accéder. Et l'une des choses que je disais, c'est que même si on met des accès aux messages chiffrés, ça sera inefficace pour attraper ces gens-là parce que ils pourront très facilement développer des applications qu'ils utiliseront eux, qui ne seront pas soumises à ces lois. Et donc, ça serait inefficace au final. Il y avait tout un tas de raisons, mais ça, c'était l'une d'elles. Eh bien, visiblement, un groupe de hackers qui s'appelle Ghost Security a découvert une application de messagerie chiffrée développée par et pour l'État islamique qu'ils seraient déjà en train d'utiliser. Donc, voilà, c'est malheureux, c'est très triste, mais c'est une illustration du fait que ce dont on parlait à ce moment-là est effectivement réalité. Et c'est le fait que les gens qui savent de quoi il s'agit, je parle pas de moi, hein, mais des experts sur le sujet, même pas des experts, des gens qui connaissent ces sujets, savent très bien que pour plein de raisons différentes, ces backdoors ne seront pas efficaces, au-delà du fait qu'il soit important de les faire ou pas, seront inefficaces parce qu'ils développent prendre d'autres outils et on se rend compte que c'est déjà le cas. Donc, bon, je voulais le mentionner aussi.
Toujours un train d'avance.
Ouais, mais non, mais c'est ça, c'est...
Mais après, du coup, ces lois auront d'autres utilités.
Oui, c'est ça, exactement. Mais bon, pour être parfaitement honnête, le gouvernement en France et aux États-Unis, même s'il y a encore des controverses sur le sujet et des discussions, généralement, les gouvernements ont estimé que les backdoors et les clés qui casseraient le chiffrement n'étaient pas de bonne solution pour plein de raisons, dont celle-ci. Donc, il semblerait que la raison ait gain de cause dans cette histoire, ou en tout cas, c'est le chemin qu'on est en train de prendre.
Exactement.
Encore quelques petits sujets. Alors, Outdoc nous avait signalé l'OS souverain qu'on a déjà évoqué sur Reddit. Il y a le clavier français. Est-ce que t'as vu, tu le disais? Qu'est-ce que c'est que ce clavier français?
Non, mais en fait, il part du principe que c'est presque impossible d'écrire en français correctement parce qu'il n'y a pas les caractères accentués, enfin, tous les caractères accentués en accès direct et tout ça. Et
les caractères accentués majuscules et surtout et les O dans l'O, tout ça.
Voilà, exactement. Et que du coup, en gros, ben, il fallait les rajouter sur le clavier. Alors, ça veut pas dire que le clavier va plus être AZERTY, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, ben, comme on a le symbole euro, par exemple, avec un CTRL ALT quelque chose,
non,
et ben,
c'est
en fait,
ALT
on
graphique
aura...
E. C'est simple.
Ouais, voilà. Mais ben, en fait, on aura toutes les, ben, sur toutes les touches, il y aura des lettres secondaires. Par exemple, le E dans l'O et ainsi de suite, et ben, dans le O, et ben, tu, ou le O dans le E, ça dépend dans quel sens tu le lis, mais tu l'auras par exemple en faisant CTRL ALT O, mais il sera marqué sur le clavier. C'est-à-dire qu'on le verra écrit.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Bah, moi, je trouve ça pas mal. Je
non,
sais
non,
que
mais
c'est un petit
dans,
peu.
En fait, de toute façon, ils peuvent pas rajouter des touches. Ça n'est pas, enfin, c'est pas. C'est
bah,
pas
ils
possible.
Pourraient, hein, tu sais, il y a
ouais,
plein de.
Ouais, mais enfin,
de...
du coup, qui l'adopterait vraiment? Quel fabricant fabriquerait un clavier français comme ça? Tu vois.
Bah, si désormais on dit que le nouvel AZERTY, c'est AZERTY 2, tu vois, le retour de la vengeance, AZERTY 2, à partir de maintenant, de telle année, les claviers AZERTY doivent être construits comme ça. On a un support des anciens claviers pendant un certain temps, sur 10 ans, tu vois, puis au bout de 10 ans, on n'a plus que les nouveaux. Moi, je pense que c'est une bonne idée.
Je sais pas.
Non, t'es pas. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu une réaction épidermique aussi, genre ah mais on peut pas écrire le clavier français, mais c'est n'importe quoi, machin. Mais
si l'ordre des touches est changé, ça m'embête.
Non, il faut pas changer l'ordre des touches.
Non, mais
rajouter.
Voilà, mais si on est juste à ajouter des. Bon, le truc c'est que le clavier sera encore plus moche qu'avant, mais il y aura des raccourcis dans tous les sens et des trucs dans tous les sens inscrits partout. Mais bon, dans les faits, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais après. Est-ce que c'était la priorité, quoi?
Bah,
sachant
non,
qu'en
bien
plus, maintenant,
sûr,
avec
mais...
tous les correcteurs orthographiques dans tous les trucs et tout ça, est-ce que ça a encore du sens? Je sais pas.
Ouais, non, je sais pas. Je sais pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, tu vois, sur un clavier AZERTY, attends, je regarde là, il y a une touche, par exemple, où il y a dollar, pound et une sorte de petit machin bizarre qui sert à rien, quoi. Une sorte de petite étoile, machin. Bon, pourquoi ne pas remplacer dollar, pound et machin par, je sais pas, moi...
Tu peux avoir besoin de les taper aussi.
Oui, bien sûr, mais tu peux avoir besoin... T'as plus besoin de taper un... Enfin, t'as plus besoin... Pour la protection de notre belle langue, t'as plus besoin de taper un O dans l'O que un E majuscule en début de phrase que des dollars ou mais ils seront toujours là les dollars mais enfin, je sais pas moi je me dis pourquoi pas
bon voilà moi c'est juste l'impression de perte de temps
ouais
qui pour moi est je
bon,
me dis
disons
est-ce qu'il y a
que...
pas autre chose de plus important à faire.
Entre les claviers, entre l'OS souverain et le clavier français, moi je voterais plutôt pour le clavier français, tu vois, c'est moins.
Ah
bah,
bien sûr,
de
à choisir, c'est évident. Ouais. Mais même, enfin, je sais pas, il y a pas des choses plus importantes. J'ai l'impression qu'ils s'ennuient vraiment les députés en ce moment. Je sais pas, ils essaient de se trouver des occupations ou justifier le temps passé dans l'hémicycle. Je sais pas. Je crois pas que ce soit la priorité aujourd'hui d'avoir un clavier français. Je crois pas que ça va changer la vie des gens d'avoir un clavier français. Je crois pas que ça va sauver
améliorer
la langue française
les... ouais.
D'avoir un clavier français.
Ouais, en même temps, j'ai vu passer un tweet assez alarmiste alarmant il y a ce matin avec une institutrice qui, je sais pas, il a beaucoup circulé ce tweet, mais c'était une dame qui disait qui mettait une copie d'un devoir sur le coréen. Où il devait expliquer je sais plus quoi sur la culture coréenne et elle avait mis une copie. Ah oui, alors attendez, je vais l'ai retrouvé.
Moi j'ai quelque chose de beaucoup plus alarmant et si tu vas faire des bonds sur ta chaise.
D'accord. Alors je vais déjà lire celui-là et puis ensuite tu vas me faire le tien. OK? Non?
Oui, vas-y.
OK. Alors donc c'est une prof de français, enfin une prof de coréen qui dit qu'elle est sur le point de devenir folle sur le entre guillemets français de nombreux d'entre vous, de certains d'entre vous. L'écriture chinoise, voilà le texte, hein, et je vais vous passer les fautes d'orthographe, vous entendrez juste celle de grammaire. L'écriture chinoise a aidé, je dois les lire, l'écriture chinoise a aidé ER à faire évoluer et dans la pratique linguistique en Corée, car au jour d'aujourd'hui, les Coréens utilisent les sinogrammes, ce qui les aide à comprendre et définir les origines des mots. Les Coréens cèdent encore les caractères chinois pour comprendre la signification, je vais même pas vous l'appeler, d'un mot qu'ils ont pas compris. Voilà.
Ouais,
c'est le truc. Et bon.
Vas-y. Je vais dire que ça.
Ok.
Alors, je tairai les noms, mais des inspecteurs académiques, quand même, ont dit à des profs de français, vous savez, aujourd'hui, qu'ils écrivent EST ou EET, ce qui compte, c'est qu'il ait compris qu'il y a... qu'il ait compris, en fait, la signification de ce qu'il dit, quoi. Quand, vous, quand on entend ça d'un inspecteur d'académie qui dit ça à des profs de français, de niveau collège, hein, je parle pas d'autre chose. Et pareil, hein, pour le A et à accentuer ou pas, enfin, tu vois, ce genre de choses, quand ils te disent c'est pas grave, bah, ou ça, CA, enfin, CCDA ou ça, SA, c'est pas grave. Quand tu entends ça et qu'on en est à ce niveau-là, je pense que le clavier français, c'est pas la priorité.
Ouais. Voilà. Ouais, ouais, je comprends.
L'argent dépensé à créer ce truc-là, la commission du le commissariat numérique, machin, mettez-le à la limite dans l'apprentissage du français. L'OS souverain, les 700 millions d'euros estimés pour créer un OS français, mettez-les plutôt dans l'éducation des enfants et dans l'apprentissage de la langue et de l'orthographe et de la grammaire. Peut-être que là, ça servira un peu plus.
C'est juste tu sais quoi? Moi, je pense qu'il faudrait attribuer les 700 millions de l'OS souverain pour enseigner le français avec Minecraft sur un HoloLens.
Voilà, parfait.
Voilà, on a trouvé la solution. Allez. Mais il suffisait de nous demander, enfin. C'était quand même pas compliqué.
Exactement.
Bon, bah écoutez.
Non, mais tu vois, c'est révoltant. Hein. Quand t'entends ça d'un inspecteur d'académie, c'est révoltant. Je comprends même pas que ces gens-là puissent être en poste. Et c'est pas une blague. Et je te dis ça, c'est quelque chose qui est sorti de la bouche d'un inspecteur d'académie la semaine dernière. Voilà.
Bon, eh ben écoute, sur cette note dramatique, on va conclure l'émission. J'espère que vous avez passé tout de même, malgré notre pessimiste, un bon moment avec nous. Et je vais donner à Cédric l'occasion de nous dire où on peut trouver un petit peu plus de ces litanies énervées et pessimistes.
Ah bah sur geeking.fr, voilà, pas plus compliqué. Et sur Twitch, évidemment, la chaîne Twitch de Geeking.
Et sur Twitter, Cédric Bonnet.
Voilà.
Bon, pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur frenchspin.fr. Vous retrouverez aussi notamment le rendez-vous jeu qui couvre l'actualité du jeu vidéo toutes les deux semaines, un petit peu comme on le fait ici dans le rendez-vous tech. Et vous ne retrouverez pas a priori Upload cette semaine
parce que la tristesse.
Ouais, et c'est même pas parce que moi je suis dans les cartons. Hein. Non, moi j'étais prêt à le faire, j'étais sur les chapeaux de roue, j'étais partant. C'est juste que visiblement, messieurs Kainborg, Corben et Bonnet ont mieux à faire, comme par exemple s'occuper de leurs enfants,
voilà.
Travailler pour ne pas mourir de faim en développant leur business, ce genre d'excuses lamentables que j'ai du mal à accepter. Mais bon, c'est à cause d'eux.
Ouais, ouais.
Il n'empêche que nous, on sera de retour dans deux semaines avec un nouveau rendez-vous tech. D'ailleurs, les podcasts n'ont pas vraiment d'interruption, si ce n'est a priori celle d'Upload, à cause de ce petit souci. Les podcasts n'ont pas d'interruption malgré le déménagement en Finlande qui a lieu dans quelques jours à peine. Ça veut dire que les prochaines émissions, et notamment le prochain rendez-vous tech, sera fait du milieu du froid et de la nuit, puisque je serai à Helsinki. On verra comment ça se passe avec ma connexion fibre super rapide. Normalement, j'espère que je l'aurai, si tout va bien. et je vous raconterai tout ça et je vous raconterai mes expériences de voyage. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Si vous ne voulez pas donner de sous, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous pourriez, par exemple, soutenir l'émission en mettant un commentaire et une review et des petites étoiles sur le catalogue iTunes, qui reste l'un des moyens les plus communs pour les gens de découvrir l'émission. Donc, vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser un petit commentaire, ça nous ferait plaisir. Et puis, dans tous les cas, comme je le disais, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous tech. Ciao à tous!
Ciao!